Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Coupure. Aujourd'hui, nous sommes très contents de vous faire découvrir notre interview enregistrée en juillet dernier avec Gilles et Nicolas Véraud de la prestigieuse Maison Véraud, charcutier d'excellence depuis 1930. La Maison Véraud est une institution à Paris. Avec ses 5 boutiques réparties dans la capitale et ses produits phares tels que le pâté en croûte vice-champion du monde ou le fromage de tête champion de France, le père et le fils nous font découvrir les coulisses de leur entreprise, de leur histoire à la relève assurée par cette troisième génération, du choix des produits à la confection et de leurs futurs projets. Bonne écoute sur Coupure! Bonjour Gilles, bonjour Nicolas Véraud.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue sur Coupure. On est très très ravis de vous recevoir aujourd'hui. Comment allez-vous aujourd'hui?
Bah, super bien. Paris revient un peu, donc c'est vraiment un bonheur. Ça fait du bien de revoir les gens dehors et dans les restaurants.
Super. C'est vrai qu'on voit maintenant dans Paris plus de monde et les restaurants qui sont bien animés. Est-ce que, donc on va commencer à parler un peu de l'histoire de Maison Véraud pour découvrir à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la Maison Véraud et aussi nous décrire vos sentiments lors de la relève, entre parenthèses?
Je pense qu'il y a eu, il y a deux histoires dans la Maison Véraud. Ce qui est sûr, c'est que c'est mon père qui en parlera mieux que moi, mais si je devais juste introduire et me donner le plan, il y a eu la naissance en 1930. Et il y a eu la continuité, la suite, en 1997, donc grand 1, grand 2, à ton tour.
1997, en fait, c'est la date où nous avons, avec ma femme Catherine, la mère de Nicolas, ouvert le premier magasin parisien. Donc, c'est vrai que mes grands-parents ont ouvert le premier magasin en 1930 à Saint-Étienne. Toute petite boutique, ils ont commencé à deux, bien sûr. Ils venaient du monde agricole l'entreprise a progressé jusqu'à vraiment atteindre un niveau important quand ils ont racheté le principal commerce alimentaire du centre-ville de Saint-Étienne en 47 après la guerre. Et après, donc, ils ont eu deux fils, mon père et mon oncle. Et donc, avec leurs deux femmes, ils ont fait prospérer cette enseigne qui est devenue la Maison Véraud, donc dans les années 50 à peu près, pour être vraiment un petit peu comme le traiteur charcuterie épicerie de référence de la ville et de la région. Dans les années 60-70, c'était quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai grandi dans cet univers-là, donc à Saint-Étienne, et je devais logiquement reprendre le flambeau et cette boutique, et ça s'est pas fait parce que j'avais déjà vécu beaucoup à Paris et je crois que j'étais vraiment vraiment imprégné du travail parisien. Et donc avec Catherine, donc on a décidé de s'installer à Paris et d'ouvrir notre propre magasin. Donc on a recommencé à nouveau tout en bas de l'échelle à tous les deux, avec une personne avec moi en cuisine et une personne en boutique avec Catherine. Et donc là, en 97, on reprend tout à zéro. Progressivement, il y a eu d'autres ouvertures, 2005, et puis après les années 2000 et quelques, d'autres aventures à l'étranger, enfin voilà. Et voilà. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle est en train de vivre une nouvelle mutation. L'arrivée de Nicolas est super importante aussi, bien sûr, et donc elle date de plus de 3 ans maintenant. On va dire que depuis 2018, il y a une Maison Véraud qui est en train d'effectuer sa mutation, je pense. C'est un peu ça.
On essaye vraiment de progresser en tant qu'entreprise tout en gardant notre artisanat, notre niveau d'exigence sur la qualité de nos produits, et même en le poussant, en le rehaussant, et en essayant de se développer, d'un point de vue dans le sens le plus large qui soit, c'est-à-dire tant d'un point de vue chiffre d'affaires, d'un point de vue communication, d'un point de vue image, dans le sens plus large, mais également progresser en termes de régularité sur nos produits, parce que avoir un développement commercial intéressant, c'est beau, ça fait plaisir à l'ego, et quand on est dans une entreprise, c'est l'objectif principal. Mais il ne faut pas que ça se fasse au prix de la qualité de notre artisanat, de nos produits. Donc voilà comment se passe sous quelle optique est la Maison Véro en ce moment.
D'accord. Et Nicolas, du coup, quelles sont vos responsabilités dans la Maison Véro depuis votre arrivée il y a 3 ans?
Moi, j'aime bien, enfin nous aimons bien, pardon. Il y a un mot qui est très important dans les métiers de bouche et dans les métiers d'artisanat, c'est l'apprentissage. En fait, je marche un peu dans les traces de mes parents, et donc on a trouvé cette formule sympa, qui est « je suis apprenti chef d'entreprise ». Ça veut tout et rien dire. Vu de l'extérieur, on peut surtout se dire que ça veut rien dire. Vu de l'intérieur, on comprend tout de suite. C'est-à-dire que l'idée, c'est de tout faire. Avant notre rendez-vous, j'étais sur une tâche assez spécifique qui correspond tout à fait à... Enfin, qui est assez sensible et dont je ne peux pas trop développer, mais qui correspond tout à fait à ce que ferait un chef d'entreprise. Mais d'un autre côté, je fais aussi de la fabrication, je fais de la communication, la stratégie de l'entreprise. Donc dire le matin, je me lève, je fais ça, ça, puis ça. Et enfin, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Mon but, si je devais mettre des mots dessus, c'est avec mes parents et avec les personnes clés de l'entreprise, d'esquisser la Maison Véro de demain.
D'accord.
Et ça, c'est quelque chose qui se fait tous les jours, parce que bon, c'est d'une banalité sans nom ce que je veux dire, mais il y aura toujours un futur. Et si jamais à un moment on stagne, si jamais à un moment on reste sans projet, sans rien, avec pour seul objectif de faire tourner ce qui existe aujourd'hui, alors déjà, moi, je m'ennuierais terriblement, parce que c'est pas là-dedans que je m'épanouis. Je m'épanouis pas dans faire tourner le quotidien. Et en plus de ça, je pense que quand on stagne, on régresse. Donc voilà. En quelques phrases, mon activité.
C'est très clair. Gilles, comment vous vivez, comment s'organise une entreprise familiale entre père, mère, fils, mari, femme?
En fait, ça se passe, chaque cas est unique. Hein. Moi, j'ai vécu quelque chose avec mon père dans les années 90, après mes années d'apprentissage, quelque chose d'un peu douloureux aussi. Et aujourd'hui, ce que je vis avec Catherine et avec Nicolas, c'est vraiment une entente exceptionnelle, une complicité, cohésion. Et en fait, quand on disait qu'avant on était à deux, on parlait que d'une seule voix. Là, on est à trois et on parle pareil d'une seule voix. Donc on va essayer jamais de contredire l'autre. On ne prend pas de décision seul, on prend les décisions à trois, toujours, ou encadré des membres de l'équipe, parce qu'évidemment qu'il n'y a pas que nous trois qui décidons et qui faisons les choses. Mais je dirais que cette relation familiale est très proche, très complice et très saine. Mais il n'y a pas de cas pareil. Hein. Je veux dire, tout le monde me dit que c'est dur de travailler ensemble. Moi, je dis que c'est exceptionnel. Pourvu que ça dure.
Bien sûr. On va parler plus précisément de la Maison Véro à Paris. On a pu s'informer et on a pu découvrir que, donc, au-delà de vos établissements dans Paris, vous avez une cuisine centrale, un laboratoire à Ivry-sur-Seine, là où vous avez plusieurs, il me semble, une cinquantaine d'employés.
Non,
un petit peu moins.
Petit peu moins.
En fait, nous sommes 25 plutôt en atelier et 65 au total à peu près. Mais voilà, c'est déjà bien. J'ai une belle brigade.
Bien sûr, je voulais savoir comment vous gérez au quotidien cette grande équipe. Quel est le lien que vous avez avec eux et le lien que vous avez entre eux avec vos différents établissements un peu éparpillés dans Paris?
En fait, je dirais que l'atelier d'Ivry, c'est un peu le cœur de la Maison Véro.
Bien sûr.
Parce que c'est de là que tout part. Parce que le mot, je dirais, le plus fort pour qualifier la Maison Véro, c'est... Enfin, le mot, en tout cas, il y a la matière, bien sûr. La matière, le produit. Et le produit, il part justement de l'atelier. Et après, bien sûr, il y a le savoir-faire, la rigueur, qui se fait, je dirais, et la créativité qui part vraiment de, qui part d'Ivry. Évidemment que c'est beaucoup d'autres métiers, c'est le commercial, le sens relationnel de nos équipes de vente, évidemment, plus l'animation de ces équipes de vente. Mais l'atelier, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc moi, par exemple, pendant, je dirais, près de 25 ans, je quittais jamais mon atelier. J'y étais du matin à l'ouverture jusqu'à la fin de, des fabrications. Ça, c'était mon quotidien. Et j'aurais pu continuer comme ça pendant toute ma carrière, parce que c'est comme ça qu'en général se gère une entreprise de charcuterie. Et puis quand on est passé à 3 boutiques, justement quand on a ouvert cet atelier à Ivry-sur-Seine, ça a changé beaucoup de choses. Je me suis aperçu que déjà, quand j'étais à Ivry, j'étais plus à Paris. Ça, c'était facile de le comprendre. Mais comme on commençait encore plus tôt, et que les boutiques fermaient toujours aussi tard, donc je me retrouvais face à des journées qui commençaient, enfin le lever était à 4h et la fin c'était plutôt 20h30, 21h. Donc là j'ai commencé à me dire bon, mais en plus je suis un peu plus âgé, donc je ne veux pas rallonger les journées de 2h, enfin 15h par jour, 16h par jour, ça devenait quand même très compliqué. Et puis c'est là aussi où je me suis retrouvé face à une entreprise qui avait grossi, et je devenais plus chef d'entreprise qu'artisan charcutier. Donc il fallait que j'allie un peu les deux. Donc aujourd'hui, avec Nicolas, l'atelier fait partie de notre priorité. Et donc on y est le plus souvent possible, en tout cas. Il n'y a pas de règle vraiment. En ce moment, on y passe pas mal de temps parce qu'il y a... c'est un travail surtout sur les projets de septembre et de Noël. Donc il y a beaucoup de travail sur la création, et puis bien sûr toutes les périodes charnières comme novembre, décembre, janvier, en général on quitte pas tellement l'atelier, donc on y est du matin au soir.
Bien sûr. Nicolas, vous êtes aussi passé par ces longues journées comme disait Gilles, de lever tôt et finir tard. Est-ce que forcément ça vous a, c'était enrichissant pour vous, ça vous a appris et ça vous a un peu forgé dans ce métier?
Alors, je pense pas qu'on se forge forcément par la douleur, la souffrance, quoi que ce soit, mais par contre, dans le cas de la maison Véro, de l'activité de l'atelier, il est, notamment sur les périodes chaudes, il est inenvisageable à l'heure actuelle de pas y aller. Enfin, c'est juste hors de question. Donc, de novembre, décembre, janvier, on va dire que le service minimum, c'est d'être là-bas à temps plein, c'est-à-dire de ne faire que ça. La priorité est là. Sur les périodes estivales, la priorité est autre, c'est-à-dire que la priorité, ce sont les projets, c'est demain, c'est le futur. C'est, alors, il y a du futur à court terme, il y a par exemple créer une collection de produits, ça c'est du futur à court terme, il y a le futur à moyen terme, des potentielles ouvertures, ce genre de choses, il y a le futur à long terme, où est-ce qu'on souhaite emmener la maison Véro plus tard, et qu'est-ce qu'on fera dans 4 ans. Et en fait, c'est ça que je trouve absolument génial, c'est de se dire que il y a des moments où on a le nez dans le guidon. Il y a des moments où on prend un peu plus de recul, parce que même si, comme le disait mon père, en ce moment, donc au moment où on enregistre, on est sur une période, on est en plein dans la période estivale, puisqu'on est début juillet, il y a quand même des passages à l'atelier qui se font, vu que on est en train de travailler sur la collection automne-hiver. Mais il y a aussi tout le reste à côté, qui a un travail plus de prise de recul, et puis de toute façon, l'atelier à cette période-là de l'année est beaucoup moins intense que décembre. Donc, oui, avoir le nez dedans, c'est important. Mais oui, prendre du recul aussi, c'est primordial. Et je pense que c'est des métiers dans lesquels il est extrêmement compliqué de sortir de son quotidien pour essayer de prendre du recul sur la façon dont tu le sous-entendais dans ta réponse en disant « oui, je me levais à 4 heures, je rentrais à la maison, il était 20h30, 21h. Quand on fait ce genre de journée, arriver à se poser, déjà quand on s'assied, généralement on a envie de dormir. Voilà.
Je confirme, c'était le cas.
Non, mais oui. Je les ai pas faites autant que toi. Ça serait mentir de prétendre ça, mais j'en ai fait quelques-unes aussi. Je peux vous dire que c'est impossible d'avoir une vision nette ou quoi que ce soit. En fait, quelque chose qui sorte du quotidien, de la routine, pas d'un point de vue péjoratif, mais par exemple, voilà, je fais ma fabrication, presque je me mets de façon automatique sur ma fabrication, parce que je sais la faire, je la maîtrise, il n'y a pas de souci. Si jamais on a un rythme comme ça tout le temps, je pense qu'il est très compliqué de progresser en tant qu'entreprise. Donc il faut s'encadrer des bonnes personnes, c'est primordial. Une entreprise, ça ne peut pas se monter tout seul.
Bien sûr.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder en tête. On connaît plein de personnes qui sont extrêmement valeureuses, qui travaillent un nombre d'heures de folie, avec une pression de malade. Et c'est compréhensible parce qu'on est endetté, parce qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si jamais ça, c'est le quotidien et ce n'est pas l'exception, si jamais c'est ordinaire et pas exceptionnel, je connais peu d'entreprises sur lesquelles ça explose. Simplement parce que physiquement, c'est pas possible.
Donc le bien-être au travail, c'est vraiment quelque chose de qui maintenant on voit que c'est quelque chose de plus en plus important dans les entreprises et qu'il faut vraiment que ça soit.
Oui. Alors après, on reste des métiers de. Enfin voilà, on fait pas les 35 heures non plus quoi.
Bien sûr.
Mais oui, il y a deux extrêmes. Enfin extrêmes. Je me permettrais pas de dire que 35 heures c'est un extrême, ça serait prétentieux de ma part et malvenu. Mais l'extrême qu'a connu mon père pendant longtemps et que moi j'ai connu par intermittence. Et ben, il faut pas que ça soit le quotidien. Sinon, c'est l'entreprise qui est en pâtit. Qu'est-ce que tu en penses ?
J'ai ce recul aujourd'hui parce que je peux dire presque que je suis un tournant de ma carrière, alors qu'on pourrait penser que je suis en fin de carrière. C'est pas du tout le cas parce que je me projette vraiment sur encore beaucoup d'années, vraiment de nombreuses années. Et je pense que si j'avais gardé avec Catherine ce modèle que j'ai suivi pendant plus de 30 ans dans ma carrière. Plus de 35 ans maintenant, ça commence à faire, oui, 38 ans que je travaille dans ce métier. Je pense que je penserais vraiment à. Je réfléchirais à prendre ma retraite et à m'arrêter, peut-être à 60, peut-être au plus tard à 60 ou un peu plus longtemps, mais je serais dans ce modèle-là parce que je serais épuisé, parce que j'aurais certainement pas progressé en tant que chef d'entreprise. Et aujourd'hui, en fait, je me suis jamais autant amusé dans mon quotidien, dans mon métier, parce que d'abord, les journées se ressemblent plus du tout. J'ai gardé le côté plaisir aussi. Mon plaisir, c'est aussi d'être dans mon atelier. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. Mais j'y vais vraiment quand je veux. Donc quand je pense que c'est nécessaire, quand j'ai envie de parler de projet avec l'équipe, quand on veut avec Nicolas faire des avancées sur tel ou tel projet. Et donc ça, c'est plaisir. Je pense que, voilà, j'espère travailler longtemps comme ça. Peut-être encore moins physiquement, bien sûr. Mais si j'avais effectivement continué... Je serais certainement peut-être pas aussi enthousiaste, pas aussi épanoui dans mon métier, dans mon quotidien. Et je penserais certainement à prendre ma retraite. Là, c'est pas le cas.
On parlait de production dans votre atelier à Ivry. J'aimerais qu'on parle de la réalisation de vos produits. Dans vos interviews, vous apportez une grande importance à la qualité des produits que vous sélectionnez. J'aimerais qu'on prenne un de vos produits phares et que vous nous racontiez le processus de sourcing et le choix de vos fournisseurs et aussi la réalisation d'un produit et que vous nous racontiez votre savoir-faire.
Vous avez un produit que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez qu'on développe
De tête, je pense au pâté croûte.
Et on peut même dire le vice-champion du monde.
Ouais, je pense en fait, alors, ce produit, il est symbolique pour plein de raisons. Les deux, la plus importante d'abord, c'est parce qu'il a, il a remporté ce prix, qui a cette deuxième place au championnat du monde, il y a maintenant 10 ans. Et bon, déjà, ça, c'était génial, même si voilà, j'aurais préféré être premier. Ensuite, c'est devenu un best-seller de la maison, un des best-sellers de la maison. C'est une recette dont je ne me lasse pas non plus. Je pense que voilà, dans la famille, il ne se passe pas une semaine sans qu'on en mange, je crois. Et puis il correspond totalement à, justement, à cette éthique qu'on s'est imposée il y a maintenant plus de 20 ans. Mais à ce moment-là, donc au début des années 2000, c'était pas une éthique, c'était juste un ressenti. C'était quelque chose dont on parlait pas beaucoup, pas du tout même, et surtout pas dans notre métier. Et c'était même, pas très bien compris. C'était la sélection, le sourcing, sélection des viandes. Et donc il fallait trouver un éleveur. Mais c'est quelque chose qui se faisait pas du tout, sauf si vous étiez en région, vous avez peut-être un éleveur à côté de chez vous, mais à Paris, c'était quelque chose de complètement hors sujet. Donc, il y a 20 ans, j'ai rencontré un homme qui débutait dans l'élevage de cochons, dans le Perche. Il est venu me voir, et pendant plusieurs semaines, il me venait pratiquement tous les jours me livrer pour comprendre un petit peu ma manière de travailler. On a créé cette complicité avec lui. Donc ça, c'est un des éléments de base de cette recette, le cochon du Perche. Et après, j'ai rencontré un éleveur de volailles dans les Landes, qui s'appelle Arnaud Tauzin. Et donc, très souvent, dans beaucoup de recettes, on utilise ses poulettes, ses pintades, ses poulardes. Le cochon et la volaille font partie des éléments essentiels de cette recette. Donc il y a ce côté historique déjà du concours, le côté best-seller, enfin, d'un point de vue personnel, c'est un produit qu'on adore, et puis il met en avant tout ce travail justement de sourcing qui s'appelait pas du tout comme ça à l'époque, hein, dans les années 2000, mais qui était un ressenti. Comme une obligation, je savais que c'était ma manière de m'affranchir aussi de ce que j'avais. J'ai appris plein de super choses en apprentissage, et puis avec mes pères, quand je dis mes pères, c'est mon père, mon beau-père aussi, le papa de Catherine, et mes maîtres d'apprentissage. Mais à un moment, je me suis affranchi de plein de choses, des choses qu'on a toujours fait, qu'on faisait comme avant. Et là, je me suis dit, non, là maintenant, je fais ça différemment. Et c'est là qu'a commencé ce vrai travail. Et aujourd'hui, il est vraiment exacerbé. Je crois que Nicolas, il est aussi très, très impliqué. Et souvent, maintenant, il va faire les rencontres, on va le solliciter. Et en fait, comment ça se passe? Ben, c'est les rencontres, en fait, hein. Parfois, on vient nous voir, souvent, on vient nous voir, on vient nous présenter des produits. Et puis, parfois, nous, on se déplace, ou on va entendre parler de quelque chose, de quelqu'un. Et par contre, on est fidèle aussi, on garde aussi souvent beaucoup de confiance dans des gens avec qui on travaille depuis longtemps, s'ils ne nous trahissent pas.
Très bien. Nicolas, vous avez quelque chose à...
Par rapport à ce produit vice-champion du monde, en termes de sourcing, si je puis rajouter quelque chose là-dessus, un pâté en croûte, c'est de la croûte aussi, et donc croûte égale farine. Il y a cet engagement aussi qui est tourné sur le local, avec une farine qui nous vient de Versailles. Donc on travaille avec les moulins de Versailles.
D'accord.
Parce que la farine en soi, c'est quelque chose qu'on peut en acheter à peu près partout. Souvent, il est facile de fermer les yeux, disons, sur la farine. On est très contents, surtout quand on a visité ce moulin. C'est beau, c'est aussi une entreprise familiale avec un fils qui a mon âge qui a repris. Une famille de meuniers depuis... Nous, on est charcutiers depuis 1930. Alors, oui, ça fait longtemps qu'on est dans, dans ce business-là, dans cet artisanat, eux, ils étaient meuniers avant la Révolution française, donc sous l'Ancien Régime. Donc bon, là, ça calme. Et quand on visite ces moulins, bah, on sent en fait cette histoire, on sent cet espace absolument incroyable et cet artisanat, en quelque sorte aussi, qui est différent d'une autre, vu que c'est vraiment pas le même métier. Mais en tout cas, que ce savoir-faire qui est exceptionnel, qui a été transmis, qui continuera de se transmettre, et qu'on est fier d'intégrer à notre recette de pâté en croûte. La deuxième chose que j'aime beaucoup sur ce pâté en croûte vice-champion du monde, c'est que on ne le soupçonne pas quand on est client, consommateur et foodies, comme on dit parfois. Mais il y a les produits de concours et puis il y a les produits du quotidien, les produits de la boutique. Ce sont deux choses totalement différentes. En tant que client, on a rarement l'occasion de manger, de déguster un produit de concours. Parce qu'en fait, un produit de concours, ça prend énormément de temps, ça nécessite énormément d'applications. Et tout ce temps, toute cette application, même si on est prêt à donner beaucoup de notre temps à cette entreprise, et on n'est pas les seuls à être prêt à ça dans cette grande famille des métiers de bouche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que faire un produit de concours dans le quotidien, dans la boutique, ça n'existe quasiment pas. Ça n'existe quasiment pas parce que c'est simplement matériellement pas possible d'aller s'amuser à couper le foie gras en carré, piller le truc. Enfin, en soi, y a des gens qui le font. C'est en pâtisserie notamment. Et en pâtisserie, quand vous voyez les chefs-d'œuvre qui sont sortis par exemple par Cédric Grolet, dans les pâtisseries de Palace en règle générale, ils font des trucs qui sont absolument exceptionnels. Mais vous avez vu le prix que ça coûte à la fin.
Bien sûr, oui.
Et le prix, il est tout à fait normal, mais enfin, ce prix, il n'est pas justifié du fait des matières premières, parce que, ok, bon, de temps en temps, on peut utiliser de la vanille, ça coûte cher, mais même dans un gâteau à la vanille, c'est pas la vanille qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est la main d'œuvre, c'est le temps passé dessus. Donc imaginez si avec des matières premières qui coûtent beaucoup plus cher, parce que du foie gras, enfin de la viande en règle générale, ça coûte plus cher que du sucre, de la farine, et même des fruits, même si les fruits, c'est pas donné. Donc imaginez si jamais on faisait un produit de concours vendu, un produit pensé comme un concours de charcuterie, si jamais on faisait ça au quotidien. Alors déjà, on n'arriverait pas à suivre en quantité, en volume, et en plus de ça, on le vendrait une fortune. Là, la grande force de ce produit, c'est que l'objectif que mon père s'est fixé en préparant ce concours, c'est de se dire, je fais un produit, je veux qu'il soit exceptionnel en termes de goût, ça c'est le cahier des charges, petit 1 qu'il soit exceptionnel en termes de goût, petit 2 qu'il soit à la boutique dès le lendemain du concours, si jamais il termine à une position honorable. Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je peux me tromper, hein, mais à ma connaissance, il est impossible d'acheter un pâté en croûte champion du monde ou vice-champion du monde autre que dans une boutique avec une fabrication quotidienne, continue et soutenue, autre que celui de la maison Véro. Peut-être que je fais erreur, mais je suis pas mal le dossier et j'en vois pas. Ça veut pas dire que les autres c'est moins bien ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que mon père s'est imposé quelque chose, il a dit, moi ce que je vais créer pour le concours, je veux que tout le monde puisse le goûter.
Bien sûr.
Et ça peut paraître logique comme ça, mais c'est très peu commun. La preuve, j'en connais pas d'autres. Pour l'exemple du champion du monde de pâté croûte.
C'est très généreux de rendre accessible un produit comme ça à une grande diversité de clients et de personnes. Et c'est vrai que c'est un très beau projet en tout cas. On parlait de produits, j'aimerais aborder un sujet d'actualité qui est certes pas très agréable. J'aimerais parler de la grippe aviaire qui a touché notre territoire et qui a lourdement frappé les métiers de la gastronomie cet hiver. On a détecté plus d'une centaine de foyers en France et on a dû abattre massivement au total, plus de 3,5 millions d'oies de canards et de poules ont été abattus depuis décembre, selon le journal Sud-Ouest. J'ai vu que vous aviez signé une tribune sur alertant de la mise en danger de l'excellence gastronomique française face à cette crise. Je voudrais savoir votre état d'esprit et votre point de vue sur cette crise et ce sujet-là.
En fait, c'est symptomatique de quelque chose, cette crise. Des crises sanitaires, on est en train, je l'espère, sortir d'une en ce qui concerne la Covid. Mais en fait, on a compris que c'était possible, ça existait. La grippe aviaire, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, dont on a déjà entendu parler dans notre vie, et qui ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Le problème, c'est quand on se sert de ces crises pour changer un modèle au profit de l'industrie. C'est-à-dire que pour la question de la grippe aviaire, on a été sensibilisé et sollicité par la maison Bartouille, qui fait des foie gras exceptionnels et du saumon fumé incroyable également. Et en fait, ils nous disent, mais regardez, ce qu'on nous demande là, c'est d'avoir un élevage semi-industriel, d'avoir des volailles qui sortent plus. Bah oui, en effet, si elles ne sont pas dehors, elles ont moins de chances d'être contaminées par les autres, ça c'est évident. Mais sauf que c'est à l'encontre de ce que nous on souhaite. Nous on veut que nos animaux... Alors il peut y avoir le débat, et je l'entends et je le respecte, sur le foie gras, dire il y a une éthique animale, mais d'un autre côté il fait du foie gras. J'entends cet argument, je l'entends. Mais, enfin... Je veux pas nous ne voulons pas nous résoudre à dire que parce que maladie, donc industrialisation ou semi-industrialisation du mode du processus d'élevage et parce que nous on est sensibilisé à ça de par un confrère qui est pas dans notre métier exactement, bien qu'on utilise du foie gras en charcuterie à la maison Véro. Mais il y a quelque chose, nous, qui nous pend au nez, qui n'est pas la grippe aviaire, mais qui est la grippe porcine, qui, comme la grippe aviaire, n'est pas transmissible à l'homme. Donc pas de problème, vous risquez rien. Ça sera juste un gros souci pour les éleveurs et pour les professionnels qui travaillent avec du cochon. Parce que si jamais la grippe porcine, qui est aujourd'hui bien à l'est, arrive jusqu'à nous, on va avoir des problèmes pour se fournir en cochon. Mais sauf que moi, il est absolument hors de question qu'un jour on dise il est possible qu'il y ait d'autres grippes porcines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre tous les cochons sur des pilotis, comme on fait malheureusement dans plus de 80% de l'élevage en France. Et puis comme ça, les cochons, ils toucheront jamais le sol, ils verront jamais le jour, mais au moins, ils ne choperont pas la grippe porcine. Nous, c'est quelque chose qui nous révulse comme idée. C'est pas envisageable, c'est pas possible. Donc, on est totalement solidaires des gens qui sont signataires de cette pétition, de leur démarche. Et on pense aussi un peu à nous, parce qu'on n'a vraiment pas envie que ce genre d'idée arrive pour la question du cochon.
Bien sûr. Gilles, vous confirmez les propos de Nicolas ?
Bien sûr. En fait, d'abord, c'est quelque chose qu'on vit de très près au sein de la Maison Véro, parce que nos fournisseurs, nos complices, nos éleveurs sont touchés durement quand il s'agit bien sûr des Landes et notamment Arnaud Tauzin. Donc le premier abattage dont il a dû faire qu'il a dû subir, je crois que c'est en 2018 ou 2019, je sais plus, en début d'année. Et là, en fait, on lui a promis qu'à sa réouverture, quand il reprendrait son activité, qu'on redoublerait en fait notre travail avec lui, qu'on penserait toujours à lui pour nos créations. Et c'est ce qu'on fait depuis cette période, depuis qu'il y a cette fragilité, ce risque, cette épée de Damoclès. Donc notre rôle aussi, il est de les soutenir encore plus. Et ce qui s'est passé cette année, c'est que la terrine qu'on avait créée avec sa fameuse poulette qu'on aime autant, elle a dû d'abord être fabriquée avec un autre éleveur, bien sûr. Et on a attendu le mois de mai, je crois, mi-mai, pour retrouver la fameuse poulette de chez Arnaud Tauzin qu'on aime autant. Donc on est à la fois touchés, bien sûr pas aussi durement que eux, puisque nous, on a une solution de... on peut trouver d'autres très bons éleveurs, mais si on garde notre confiance dans certains, comme en tout cas Arnaud Tauzin, c'est aussi parce qu'on estime que c'est un des meilleurs, en tout cas.
Bien sûr. C'est très important, comme vous avez dit avant, de garder le lien avec vos fournisseurs.
Tout à fait, bien sûr.
Pendant des crises. Mm-hmm. On va revenir plus sur un sujet un peu plus agréable et parler de la modernisation du métier de charcutier. Donc maintenant, vous avez plusieurs outils à disposition. Vous avez les réseaux sociaux, notamment avec Instagram. On voit que c'est vraiment la plateforme pour les grands chefs et tous les métiers de bouche. Vous avez récemment publié un livre de recettes terrine, rillette, saucisse et pâté croûte, qui, je pense, est aussi destiné à rendre accessible la réalisation de tous ces produits à un grand nombre de personnes. Je voulais savoir, votre avis sur ces idées, ces nouvelles conceptions que vous apportez à votre offre pour moderniser l'image du métier de charcutier. Quelles sont vos idées ?
Le livre en est une. L'idée, c'est de... Il y a un constat, en fait, au départ. C'est de se dire que nous, on sait faire des pâtés, des terrines, des rillettes, des saucisses et des pâtés croûtes. Mais pour une personne qui simplement aime manger et qui est client, qui en consomme, généralement, on sait que globalement, ça vient d'un cochon. Bon, on se dit, ok, ça vient d'un cochon, mais comment ça termine en pâté, quoi ? Grand mystère de la vie. Je vois à quoi ressemble un cochon, je vois à quoi ressemble un pâté, mais je comprends pas. Là, le processus entre les deux, je comprends pas. Il y a vraiment cette volonté de démystifier la chose et de dire, déjà, vous pouvez le faire chez vous. Et le mot que vous avez employé d'accessibilité, c'est vraiment exactement ça. C'est le maître mot du livre. On dirait que c'est accessible. Accessible parce qu'il n'y a pas besoin d'un matériel de professionnel. On peut s'en sortir avec un couteau, un saladier, un moule à cake et un four, c'est mieux. Accessible dans les ingrédients utilisés et accessible dans le lexique également. Parce qu'en fait, chaque branche, chaque domaine a son petit jargon, ce qui est tout à fait normal. On a besoin de termes précis entre professionnels. Mais il ne faut pas que ces termes soient un obstacle à la compréhension, à l'intelligibilité pour le grand public. Donc, le livre est clairement une façon de démocratiser notre savoir-faire. Ensuite, les réseaux sociaux permettent aussi, en effet, de montrer une image différente de la charcuterie et du charcutier. Je pense qu'il y a eu un vrai écrémage dans les professionnels de la charcuterie. Aujourd'hui, alors peut-être que il y a des personnes qui suivent, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus, qui ne suivent pas trop l'actualité de nos métiers, peuvent toujours avoir l'image de la personne qui sort avec un peu costaud, avec un tablier sanguinolent, voilà, aujourd'hui, je peux vous le dire sans cligner des yeux, ça n'existe plus. Enfin, il y a une élégance, et c'est aussi important, même si notre objectif c'est de faire des bons produits, mais il y a une élégance qui existait un peu moins avant et qui aujourd'hui, je pense que les réseaux y contribuent, les réseaux sociaux, qui aujourd'hui est présente. Et ça, c'est génial parce que ça permet de promouvoir notre savoir-faire. Et puis, il y a aussi le fait, alors à la Maison Véro, c'est très important pour nous, et on n'est pas les seuls pour lesquels c'est important, c'est le fait de sortir de la simple andouillette, pâté de campagne, terrine de canard au poivre vert. Enfin, qu'est-ce qu'on s'ennuierait si jamais on passait toute notre vie à faire tout le temps la même chose, quoi. J'adore la rillette, j'adore l'andouillette, il n'y a pas de souci, je mange avec grand plaisir. Si ce soir vous me dites on se fait une andouillette de trois, vous me dites l'heure, le lieu, je suis là, pas de problème. Mais par contre, Il faut, ne serait-ce que pour notre épanouissement personnel, mais ça c'est vraiment propre à nous, mais il faut, pour promouvoir notre métier, qu'on puisse montrer une nouvelle image, et ça, ça passe par les produits. Parce que tout le reste, bon, la communication et tout, c'est important, il n'y a pas de souci, mais ce qui compte, c'est le produit, c'est la charcuterie en tant que telle à la fin. Et quand on fait, pour ce qui nous concerne, ce qu'on a appelé un pâté en croûte aux poulpes, avec salicorne, citron confit, poulpe et cochon, bah, c'est un peu, ça titille un peu des trucs, c'est un peu nouveau. Quand on fait, c'est notre chef qui a fait ça, Gaël Radigon, qui est meilleur ouvrier de France, le Paris Biarritz, un quatre mains avec Sébastien Zouzaïa, autre chef charcutier, chef d'entreprise et chef bien entendu, qui est installé dans le sud-ouest entre Biarritz et Bayonne, et que en fait ils reprennent leurs deux savoir-faire, leurs deux origines pour créer un produit gustativement incroyable, esthétiquement hors du commun en ce qui concerne la charcuterie. C'est comme ça en fait qu'on fait progresser, je pense, le métier, qu'on s'amuse et que on essaye de tourner la page de quelques années pendant laquelle la charcuterie était malheureusement un peu en déclin.
Gilles, au milieu de l'interview, vous nous parliez de vos projets de développement. Alors forcément, nous, on pense à est-ce que vous allez faire découvrir vos produits dans d'autres régions de France en ouvrant des magasins ou voire même à l'étranger. On sait que voilà, vos produits ont une ont un peu une j'ai le nom DLC, mais je ne vais pas dire DLC, c'est
date limite de consommation.
Voilà, mais voilà, ils sont un peu, c'est des produits frais,
fragiles, ouais.
Donc et fragiles. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un peu la problématique si vous souhaitez vous développer. Est-ce que voilà, faire découvrir vos produits en France ou à l'étranger sont une de vos...
En fait, il y a déjà quelque chose qui existe, puisque depuis près de 15 ans maintenant. Plus de 15 ans, on a une présence à l'étranger, donc par l'intermédiaire d'un chef français qui est installé à New York depuis très longtemps. Il s'appelle Daniel Boulu, et donc Daniel Boulu est venu nous rencontrer il y a de ça 16 ans. Il y a eu un coup de foudre et on travaille pour lui, avec lui, à New York. Et on a travaillé aussi de nombreuses années à Londres, à Boston, à Toronto. D'accord. Et à chaque fois, on faisait le même métier qu'à Paris, c'est-à-dire qu'on faisait de l'artisanat en charcuterie pour des restaurants, pour des hôtels ou pour des boutiques parfois pour Daniel Boulu. Donc ce travail à l'étranger existe déjà, mais il est sous une forme de présence puisque les boutiques ne s'appellent pas Maison Véro. Dans les restaurants, bien sûr, il est mentionné la Maison Véro qui fabrique ses produits, mais au sein de l'atelier de Daniel Boulu. Chaque fois qu'on a été présent à l'étranger, dans chaque ville, on avait un chef, un jeune chef formé par nous, qui avait été parfois mon bras droit, parfois mon numéro 2, parfois quelqu'un de beaucoup plus jeune. Ça dépendait un petit peu du niveau de l'atelier qu'on ouvrait. Et ça, c'est quelque chose qui a été exceptionnel pour notre épanouissement, pour notre réseau, pour la connaissance de la Maison Véro à l'étranger, bien sûr. Donc, mais ça, c'est une présence. Donc, on n'a pas pris non plus les risques on n'était pas prêts du tout pour ouvrir des Maisons Véro à l'étranger. On y pense, bien sûr. C'est quelque chose de... Surtout depuis que Nicolas est là, parce qu'il y a une vraie vision maintenant. Nicolas l'a apporté, cette vision aussi. Et en tout cas... Enfin, il en parlera mieux que moi, mais l'envie, c'est si ça se passe à l'étranger, si ça se passe en dehors de Paris, en région, ce sera toujours d'avoir un endroit pour fabriquer, parce qu'on n'enverra pas de notre atelier d'Ivry-sur-Seine à Marseille ou à Tokyo. Mmh. D'abord, on ne pourrait pas envoyer à Tokyo, on n'aurait pas le droit. Et on perdrait beaucoup trop de fraîcheur de nos produits, même pour une ville de province. Donc l'idée se fera en tout cas quand on partira travailler ailleurs qu'à Paris, ce sera d'avoir un endroit où on puisse être autonome et avoir des gens qui maîtrisent notre savoir-faire, qui ont été formés chez nous, en qui on a confiance. Et on reproduira ce modèle en fait qui existe et qui marche bien à Paris. dans d'autres endroits, peut-être, oui, en tout cas, on y pense, oui.
C'est exactement, enfin, oui, bien sûr, c'est exactement ça. mais on ne pourrait pas promouvoir le local. Alors, quand on dit local, j'entends pas ça au sens stricto sensu, manger que des produits qui viennent de Paris ou de l'Île-de-France. Pour moi, quand on va chercher des cochons dans le Perche, voilà, c'est à 1h30 de route de Paris, donc on est livré tous les matins, j'appelle ça du local. Et je l'étends même plus loin, quand on va chercher une volaille spécifique dans les Landes ou un porc noir de Bigorre spécifique, bon, voilà. J'ai pas l'impression qu'on ne fasse pas du local et qu'on se trahisse quand on va chercher ces produits qui sont des produits d'exception. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait pas dire qu'il faut faire quelque chose, prenez le local à Paris pour ensuite aller au Japon, en Chine, aux États-Unis ou n'importe où. Et dire, bah non, le local, c'est pour la France. Hein. Vous mangez des produits. Bon, globalement, si on fait ça, ça veut dire que soit on les surgèle. Non, je ne vois pas d'autre solution que les surgeler. Vous mangez des produits surgelés. Alors, certes, ils étaient très bons avant d'être surgelés. Après, ils seront forcément un peu moins bons quand vous les congèlerez, tout ça. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout au début de l'enregistrement. Notre objectif est double, maintenir la qualité et avoir un développement qui nous épanouisse et qui nous excite. Si jamais il n'y a plus la qualité, eh ben c'est qu'on se perd. Mm-hmm. Et c'est pas envisageable.
Bien sûr.
Voilà.
C'est une très bonne et c'est vrai que c'est un très bon état d'esprit quand on a envie d'avoir de nouvelles idées, mais après niveau réalisation, il faut que voilà qu'on garde une qualité constante. J'ai une dernière question qui viendra conclure et aussi résumer cette interview. Gilles et Nicolas, quelles sont les valeurs de la Maison Véro que vous souhaiteriez continuer à transmettre dans les prochaines années ?
C'est une bonne question, parce qu'en fait, on ne les a jamais... c'est un travail qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on les écrive, qu'on se pose autour d'une table.
D'accord.
On avait une ébauche à un moment, Gare du Nord, il y a un certain temps, dans le restaurant de Thierry Marx qu'on fournissait, l'Étoile du Nord, quand c'était ouvert. Artisanat. Les mots-clés de la Maison Véro. Je ne sais pas si ce sont des valeurs, mais les mots-clés. Artisanat. Charcuterie. On est une maison de charcuterie, avant d'être traiteur, hein, mm-hmm. On est charcutier. Qualité, j'en ai donné trois.
Élégance,
ouais.
Tu l'avais dit tout à l'heure, mais c'est un mot qui est toujours, que j'ai toujours à la bouche en fait. Et puis, voilà, ça tourne autour de tout ça déjà. Il y a aussi dans la manière d'être, alors je ne sais pas si je vais trouver le bon mot, mais dans la manière d'être chef d'entreprise et d'être entrepreneur aussi, il y a le côté humain aussi de notre démarche et de l'ambiance qu'on veut créer au sein de cette famille qui est, aujourd'hui on parle encore de famille parce que c'est voilà, on est un peu le papa aussi de bon, Nicolas pas trop parce que il y en a certains qui sont plus âgés que lui, mais on est encore un peu, enfin voilà, il y a un peu ce côté où le boss c'est aussi celui à qui on peut se confier parfois, on essaie de créer des trucs qui fonctionnent bien pour que les équipes voilà sont matchent bien entre elles, parce que ce qui est dur aujourd'hui, c'est qu'on est sur 5 boutiques et un atelier, donc ça fait 6 endroits, et il y a des gens qui se sont encore jamais croisés parce qu'il y en a un qui a commencé il y a un mois, qui connaît que très peu de gens dans l'entreprise parce qu'il est encore jamais venu à l'atelier, mais ça va venir en tout cas. Donc voilà, mais le côté humain de
familial.
Notre ouais de notre et familial de notre comment dire de notre quotidien, il est vachement important, donc on est super vigilant à ça, donc ça fait partie des choses dans lesquelles on veut rester.
Donc c'est qualité, élégance, artisanat, familial et on a dit quoi, il y en avait 5. Qualité, excellence, qualité, artisanat, élégance, familiale, et il manque le dernier qu'on a dit pour résumer.
Vous avez mentionné charcuterie.
Oui, charcuterie.
Voilà, le plus important.
C'est le plus important. Enfin, c'est tellement logique qu'on. Merci.
Mais ouais, c'est ce qui nous définit aujourd'hui, je pense.
Super. Sur ces belles paroles, on va conclure cette interview. Merci beaucoup, Gilles et Nicolas Véraud.
Merci.
On vous souhaite de belles choses pour votre développement et pour la réussite de la Maison Véraud pour les prochaines années et les années à venir.
On vous le souhaite pour vous aussi.
Exactement.
Merci.